sans détour avec Élisane Pellerin.
Bonjour, bienvenue à Sans Détour. Cette semaine, on reçoit Ariane Bellerose, ergothérapeute, pour nous parler du programme d'adaptation de domicile du gouvernement du Québec. On reçoit par la suite Dominique Vienneau de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec. Et on va terminer l'émission avec Patrick Boissy, professeur-chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. Rejoint par téléphone Mme Ariane Bellerose. Bonjour, Mme Bellerose.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien, vous, ça va bien?
Oui, ça va, merci. Donc, on vous parle aujourd'hui parce que vous êtes ergothérapeute à domicile avec votre compagnie qui s'appelle Accompagnement Niska.
Oui, exactement.
Et on voulait parler avec vous du programme d'adaptation à domicile qui n'accepte plus de nouvelles inscriptions depuis le 1er avril 2025 et de comment ça crée des enjeux là, chez les clients qui ont besoin d'adaptation à domicile.
Ah oui, c'est un enjeu qui est essentiel qu'on parle parce que l'inclusion n'est pas assez parlée dans notre quotidien, dans les nouvelles, dans peu importe quoi, mais on le voit au quotidien, en tout cas pour ma part, chez mes clients, que c'est pas un bonus, là, c'est un droit, là, ça devrait être un droit d'avoir un accès chez soi, pour vivre chez soi, de toute façon.
Effectivement, vous avez, vous étiez en fait interviewé dans un article de Marisol Saint-Onge dans le Soleil à ce sujet-là. Donc, effectivement, un programme d'adaptation de domicile, donc un programme qui permettait, comme son nom le dit, d'adapter les domiciles pour les personnes qui ont des difficultés au niveau moteur. Donc, de mettre, par exemple, des ascenseurs lorsque c'est nécessaire, de descendre le niveau des comptoirs, de descendre le niveau des lumières pour ne parler que de ça, ou d'avoir, par exemple, un lève-personne lorsque c'est nécessaire. Ce programme-là, donc d'adaptation de domicile, n'accepte plus de nouvelles inscriptions depuis le 1er avril 2025. Et puis, donc, les gens qui ont besoin de ces adaptations-là, qui n'étaient pas inscrits avant le 1er avril 2025, doivent attendre que ce soit réouvert, en fait. Et on n'a pas de date là, de réouverture encore aujourd'hui.
Et même à ça, il me semble que c'est même avant ça, avant de avril 2025, il y a eu un arrêt de l'acceptation des nouvelles demandes. Puis en avril, ils ont repris, mais pas pour prendre des nouvelles demandes, vraiment pour prendre des gens. Parce que moi, j'en avais des clients qu'on avait entamé le programme PAD. Puis, il me semble que c'est en novembre 2024 que ça avait cessé. Et puis, là, on était comme, même ceux qui étaient en cours, on arrêtait tout. Fait que là, en avril 2025, si je me trompe pas, on reprenait ces dossiers-là en cours, mais on ne prend plus de nouvelles demandes.
Oui, effectivement, les dossiers qui étaient en cours ont été repris. On t'est repris, donc, c'est ça, au mois de mars, en fait, ça a été annoncé là, que ce serait repris, donc les demandes qui étaient déjà en cours. Par contre, là, pour ce qui est de nouvelles inscriptions, on n'a toujours pas de date là, qui est annoncée. Par contre, on a annoncé là, il y a quelques semaines de ça, donc une somme additionnelle pour le programme d'adaptation de domicile pour l'année 2025-2026, donc un 38 millions de dollars qui a été alloué, auxquels 20 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés lors de la mise à jour économique, donc en novembre 2025. Est-ce que le fait d'avoir remis ces sommes d'argent-là dans le programme, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou c'est trop peu?
Ben moi, à date, je vois pas d'impact positif dans le sens où j'ai des clients qui étaient... Il y avait les critères, mais on n'avait pas encore entamé. c'est des clients qui n'ont pas toujours les moyens de... Parce que ça offre quand même jusqu'à 50 000 $ qu'on a un accompagnement avec un ergothérapeute. Donc, il y a des gens qui attendaient, puis ils attendent toujours. Moi, j'ai pas vu d'impact positif, mais je parle pour mon expérience à moi. Fait que selon moi, c'est trop peu. Puis, tu sais, c'est sûr que le programme PAD, là, ça fait pas si longtemps qu'on a tombé à 50 000 $ ça faisait des années et des années que c'était 12 000 $ Mais on s'entend, un ascenseur, là, on dépasse assez vite, là. Fait que on pense, en tout cas, avec les ergothérapeutes, ce qu'on a pensé, c'est sûr qu'on n'a pas de nouvelles de ça, mais le fait qu'ils ont augmenté les enveloppes pour chaque personne à 50 000 $ c'est que là, ça l'a augmenté, finalement, la prise en charge de toutes ces personnes-là et de l'enveloppe. On l'a dépassé assez vite. Puis là, le réajustement que vous me parlez, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas vu l'impact encore positif. Donc, j'imagine, en tout cas, j'en conviens que c'est sûrement pas assez, là.
Probablement pas, effectivement. Là, j'imagine que c'est ça. Pour voir un impact, il faut reprendre le retard qui a été pris, puis ça va prendre encore plusieurs mois. Mais vous le dites bien, il y a 12 000 $ évidemment, c'était pas assez, là, étant donné les coûts de construction, là. Puis même oui. 50 000 $ je veux dire, c'est mieux, attendons-nous, c'est mieux que 12 000, mais ça aussi, ça se dépasse quand même facilement pour quelqu'un qui a besoin d'adaptation assez majeure, là. Ce qui fait qu'effectivement, là, probablement qu'ils ont augmenté le coût maximal par personne, là, mais sans mettre le budget qui allait avec, ce qui a possiblement provoqué justement la fermeture des nouvelles inscriptions. Puis l'arrêt, là, ça a été mis sur la glace pour ceux qui étaient déjà inscrits, mais qui attendaient leur tour. Effectivement, je le dis au début...
Mais c'est là qu'on voit qu'il manque de cohérence entre... tu sais, le gouvernement, on parle de maintien à domicile, c'est l'avenir et tout ça. Puis finalement, on ne finance pas l'accessibilité à ce maintien à domicile-là.
Effectivement.
Fait que c'est comme, tu sais, le PAD, il permet dans le fond de vivre chez soi, de rester chez soi, de ne pas dépendre du système, de continuer à être autonome et de, justement, de s'éloigner du système, de l'institution médicale. Mais finalement, on le finance pas suffisamment. Donc, il manque de cohérence beaucoup, là, dans le... Tu sais, je me demande qui prend les décisions et tout, est-ce qu'ils font dans la santé, est-ce qu'ils comprennent bien l'enjeu du domicile? J'ai vraiment pas l'impression, là. Ça, c'est depuis longtemps. Tu sais, je travaille longtemps, on s'est laissé, puis pas pour rien aussi que je suis partie à mon compte, là. C'est tellement long, là, avant d'avoir... déjà, c'est long d'avoir des ressources, puis en plus, le financement n'est pas suffisant. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il manque beaucoup de cohérence.
Effectivement, puis au final, ces gens-là se retrouvent, vous l'avez dit, là, dans des institutions médicalisées, ce qui finit par coûter beaucoup plus cher, finalement, que l'adaptation de domicile qui était prévue ou qui aurait pu être prévue au préalable.
Absolument, parce que, tu sais, le médical, oui, ça prolonge la vie, mais à quel point on prolonge la qualité de vie? Quand on est chez soi, on peut bouger un peu plus, on peut réaliser ses choses, on peut, tu sais, vous le savez, hein, vous êtes là-dedans et vous envoyez des exemples.
Oui, bien effectivement, puis même au niveau du coût en tant que tel, là, c'est pas rentable pour le gouvernement du tout. Là. Même si, non. Évidemment, parier juste de coût, c'est oublier tout l'aspect humain, mais parlons juste de coût pendant un instant, ça n'a pas plus de logique, hein.
Non, ça n'a pas plus de logique. Puis c'est à quel point comment on est encore dans le éteindre des feux plutôt que dans la prévention, tu sais. Fait que c'est vraiment comment tout le système québécois est pensé. Fait que c'est sûr que ça va de concert avec ça. On règle des urgences, mais on ne règle pas la source du problème. Puis en termes de coûts, effectivement, c'est beaucoup moins coûteux de financer, selon moi, un maintien à domicile. Où en fait la famille et tous les proches aidants puissent mieux se mobiliser pour aider la personne qui, en plus, elle est chez elle, donc continue encore plus à faire ses choses elle-même que de payer du personnel, du roulement de personnel, vous savez quoi, là. Fait que Je pense que c'est, en tout cas, c'est vraiment, ça serait intéressant de faire une étude là-dessus, de comment
il y a des études qui ont été faites, je vous rassure. Et ça coûte, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte plus de 20 fois plus cher, là, de médicaliser quelqu'un plutôt que de faire du maintien à domicile, là. Y compris.
Donc, en parlant de chiffres, c'est quoi la logique, finalement?
Il n'y en a pas. Y compris le fait de payer, c'est ça, des aides à domicile, donc des personnes aidantes du CAC ou d'autres organismes qui viennent aider à domicile lorsque c'est nécessaire. Mais ça reste, évidemment, c'est coûteux, mais c'est beaucoup moins coûteux que d'institutionnaliser la personne. Donc, ça a été.
Oui, puis la personne institutionnalisée, elle dépérit beaucoup plus rapidement. Quelqu'un qui dépérit rapidement coûte encore plus cher. C'est tout ça aussi. Là.
Oui.
Mais bon,
et vous disiez aussi dans l'article de Mme Saint-Onge qu'il existe vraiment une injustice entre les personnes qui sont sur le programme d'aide à domicile du gouvernement du Québec et les personnes qui sont, par exemple, pris en charge par la CNESST ou par la SAQ à la suite d'accidents du travail ou d'accidents des routes. Donc, c'est un peu... Le programme du gouvernement, le PAD, finalement, c'est un peu pour les mal-aimés.
Ben effectivement, il y a comme une injustice. Tu sais, pourtant, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes enveloppes, mais quand même, ça part des décisions gouvernementales. Puis moi, tu sais, j'en ai des clients de toutes sortes. Puis il n'y a pas de frein actuellement dans tout ce qui est SAC, CNSSC. Oui, les délais sont longs, mais non, ça ne s'est pas cessé, ça continue. Donc, pour le moment, c'est plate à dire, mais on est quasiment mieux d'avoir un accident de la route ou du travail plutôt que de vieillir.
Mais effectivement, c'est plus...
vieillir ou avoir une maladie neurodégénérative ou quoi que ce soit, là, mais c'est ça le message quasiment que ça envoie. Je dis pas que les gens de la SAC et de la SMSST ne vivent pas d'injustice, c'est un autre par démarche, mais si on parle vraiment le programme d'adaptation de domicile, je vois vraiment une différence au niveau de l'accessibilité, finalement.
Effectivement, de leur côté, ça doit pas être parfait non plus, mais ce qu'on voit, et vous dites bien, c'est vraiment c'est à deux vitesses, entre ceux qui sont sur le PAD et ceux qui sont sur la CNSST ou la SAQ. Et ça devrait pas, parce qu'au final, les besoins au niveau de la condition sont semblables ou même sont les mêmes, là, tout dépendant du type d'handicap. Là. Mais on revient à adapter les maisons un peu de la même façon.
Tout à fait. Ça non plus, c'est incompréhensible pour ma part, là, de mon ergothérapeute. Je trouve ça bien dommage des gens que j'avais entamé des belles procédures, il y avait des beaux projets en cours ou à venir, parce que ça se prépare un dossier là, avant de commencer. Puis finalement, on a avorté, mais mes clients de la SAC, la CMSST, ont continué. Ça me fait un petit peu mal au cœur, là.
Oui, bien effectivement, ça fait mal au cœur aux gens sur le terrain comme vous qui voyez les mêmes besoins ou des besoins très semblables, mais qui n'ont pas la même réponse et que de votre côté, ben, vous pouvez rien faire.
Non, on ne peut rien faire. C'est ça, j'ai eu des clients qui ont décidé, la famille s'est mobilisée, puis on a des âgés. Ben, nous, on veut que nos parents vivent encore là, donc ils sont mobilisés, puis j'ai quand même fait un rapport que j'aurais fait au même titre qu'un PAS, mais c'est la famille qui s'est mobilisée pour payer ça. Puis,
mais encore, faut-il avoir les moyens en tant que famille, puis avoir des gens autour de soi et ne pas être isolés. Hein.
Oui, voilà. Donc, pas la majorité.
Non, vraiment pas. Puis là, de toute façon, ça devrait pas être aux personnes proches à payer pour ça. Là. Comme vous le dites, c'est un droit. Mais bon, vous dites bien, il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça. On espère voir une reprise des inscriptions, puis un rattrapage du retard dans les prochains mois. Donc, on va regarder comment ça continue d'évoluer. Merci d'avoir été avec nous, Mme Bellerose.
Bien, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir donné cette parole-là. Puis, en espérant, comme vous dites, là, que ça, il va y avoir des débouchés à ce niveau-là pour les gens, pour qu'ils vivent chez soi en sécurité et qu'ils soient bien.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée.
On s'entretient maintenant avec Dominique Vienneau, qui est directeur général du regroupement des usagers du transport adapté du Québec. Bonjour.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, ça va, ça va.
on va parler de transport adapté pour faire changement parce qu'il y a quand même des enjeux au niveau du transport adapté encore aujourd'hui. Il y a plusieurs organismes qui parlent d'un recul, un recul du transport adapté au niveau de la qualité des services.
Oui, effectivement, effectivement. Ben, écoutez, nous, la RUTAC, donc effectivement, on est un regroupement provincial, hein, de regroupement qui assure la défense des droits des usagers du transport adapté. Et effectivement, on est présent, on a 18 membres sur l'ensemble du Québec et l'ensemble des régions rencontrent aujourd'hui une dégradation systémique de ce service public.
Effectivement, vous le dites bien, hein, c'est un service public et on rappelle que ça sert à pallier le fait que les personnes en situation de handicap là, ne peuvent pas toujours prendre le métro ou l'autobus parce que ce n'est pas adapté, alors que c'est un service qui devrait être donné à tous les citoyens.
Ben, tout à fait, tout à fait. Donc c'est effectivement, ça devrait être un service essentiel parce qu'on le voit quand il y a des grèves dans le transport à Montréal, tout le monde chiale en disant ah, mon Dieu, j'étais obligé de m'arranger à essayer de trouver un taxi ou prendre un vélo ou faire du covoiturage et c'était l'horreur. Mais la question est que pour utiliser le transport adapté, déjà il faut être éligible.
Oui.
Selon une procédure spécifique, il y a une politique d'accessibilité hein, au transport adapté qui fait qu'on doit suivre un cursus pour être éligible à ce service. Et donc, une fois qu'on a passé toutes les étapes, c'est vraiment une éligibilité qui fait que vous avez accès à ce mode de transport parce que vous ne pouvez pas utiliser d'autres modes de transport. Et aujourd'hui, même, il y a une tendance à essayer d'orienter vers le transport collectif public, mais de toute façon, même s'il était accessible de manière universelle, il y a des critères dans le transport adapté qui font que c'est vraiment un service main à la main, porte à porte, donc très personnalisé, d'aide à la personne. Et c'est un service qui nécessite réellement un service dédié, en fait.
Ben, vous dites bien, en fait, même s'il y a transport public général, donc le métro et les autobus étaient adaptés, on aurait quand même besoin de transport adapté, mais reste que les besoins seraient moins grands, là, parce que on le dit aussi, ce qu'on entend beaucoup, là, c'est oui, mais les personnes qui ont le transport adapté font justement du porte-à-porte, finalement, se font reconduire à la maison. Donc, c'est un luxe, finalement. On devrait pas se plaindre. Alors que, dans les faits, la plupart des usagers du transport adapté préféraient ne pas avoir besoin de ce transport-là, étant donné que c'est quand même très rigide là, comme service.
Alors... Oui, mais alors donc on est vraiment dans du service à la personne. Alors c'est pas un luxe, hein, c'est vraiment parce que il y a pas d'autre moyen. Il y a à peu près six typologies hein, de personnes qui utilisent le transport adapté. C'est pas uniquement des personnes qui vont avoir une incapacité physique ou qui se déplacent en fauteuil, ou il y a des personnes qui vivent avec un stress permanent, il y a des personnes qui vivent avec un spectre de l'autisme, il y a des personnes qui ont des incapacités cognitives. Donc on parle de personnes qui vivent aussi avec un Alzheimer. Il y a plein de typologies. Ouais. De clientèle et qui, de toute manière, ne pourrait pas prendre le transport tel qu'il est. Donc, ce qui est certain, c'est que pourquoi nous, on s'implique autant dans la défense des droits ? Parce que le Québec, c'est un des seuls endroits au monde où c'est un droit qui est enchâssé dans la loi et dans la politique. Donc, c'est des droits qui sont reconnus et qui, en plus, quand ils ne sont pas, quand on arrive avec un manque de service, en plus, on vient aller contre le principe de la Charte des droits et libertés. Oui. Et là, ça pose un problème parce que à partir du moment où il y a un manque de service, on atteint directement aux droits fondamentaux finalement des citoyens et des citoyennes du Québec. Et là, c'est la Charte des droits qui se vient complètement toucher sur les droits à la dignité, droits à l'égalité, droits à la liberté. Et ça, on n'a pas encore fait d'enquête systémique sur ces questions-là, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit parce qu'il y a un vrai problème dans le système aujourd'hui, il y a une dégradation systémique du service public de transport adapté.
Et STM souhaite privatiser le transport adapté, entre autres par les minibus. On a dit que le transport adapté par minibus serait en 2026 100% privatisé. En quoi, selon vous, ça va affecter le service?
Oui, alors eux-mêmes se défendent de parler de privatisation. Alors, je sais que c'est un grand débat dans nos discussions parce que c'est certain que dans le cadre de l'harmonisation des services sur le territoire de la RTM, on parle toujours d'un transport adapté qui est géré par la STM ou qui est géré par la RTM. Aujourd'hui, c'est la STM qui va prendre le lead. Mais c'est sûr qu'il y a une impartition des services, comme ça se fait déjà, malheureusement, comme ça se fait déjà dans quasiment toutes les régions du Québec, c'est-à-dire que la loi oblige les MRC à avoir un service de transport, notamment de transport adapté, et ce service-là, il va être imparti à une organisation à but non lucratif ou à un transporteur. Donc il y a des opérateurs de transport qui, de gré à gré, signent un contrat avec la MRC pour rendre le service. Donc c'est dans ce sens-là que la STM prennent des prestataires externes au lieu d'avoir leur propre personnel. Mais c'est vraiment une tendance qu'on voit partout au Québec. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle nous, on bloque quand même, dans le sens où c'est toujours orienté vers une optimisation des coûts.
Oui.
Alors, on comprend qu'il y a besoin de faire, dans des cadres de crise budgétaire, qu'il y ait une optimisation des coûts. On le voit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans tous les services publics. Donc, tout le monde lutte pour dire, OK, les services publics méritent d'avoir l'investissement et le financement qui est suffisant. Mais dans le transport adapté, c'est un des derniers endroits où on devrait faire des coupures en raison de problèmes budgétaires, parce que les personnes qui l'utilisent n'ont pas d'autre choix. Il faut vraiment voir aussi que en investissant pas dans le transport adapté, il y a des coûts induits, il y a des coûts parce que on coupe la participation sociale de citoyens et citoyennes. Oui. Et du coup, ils ne peuvent pas aller travailler, donc ils ne payent pas d'impôts, ils ne dépensent pas, ils ne peuvent pas consommer. Il y a des coûts induits de santé, ils ne peuvent pas aller se former, donc forcément, ils vont avoir moins de diplômes, donc vont être moins employables sur le... Donc, on coupe vraiment une participation citoyenne, une participation sociale, et forcément, il y a des coûts induits à couper la participation sociale de citoyens. Et vous posez la question sur les enjeux d'impartir finalement au privé ce service, comme ça va se faire effectivement par la STM, ça se fait, mais ça se fait un peu partout au Québec. La problématique, c'est qu'effectivement, on va se retrouver de gré à gré avec un contrat, avec un fournisseur, et il y a plein de régions au Québec où il y a un seul fournisseur, et évidemment, il fait appuyer le beau temps. Évidemment, oui. Il va dire, moi j'ai l'obligation d'avoir 45 heures par semaine, je les fais, je peux les faire en 3 jours, pourquoi je ferai le samedi et le dimanche, pourquoi, voilà, et puis et la problématique, c'est qu'ils font l'appui et le beau temps, et c'est eux qui ont le groupe du bâton.
Donc au niveau du service, ça impacte la qualité du service au niveau, vous en parliez tout à l'heure, là, au niveau du clé en main ou du rapport très très personnel là, entre l'usager et la personne qui fait le transport.
Oui, comme tout service privé, comme les services d'aide à la personne aussi, aide à domicile, à partir du moment où on impartit. Moi, j'aurais une entreprise, j'aurais envie de faire des bénéfices.
Oui, voilà.
Forcément. Donc, en impartissant une société dont l'objectif est de faire des bénéfices, c'est certain qu'il peut y avoir, on peut s'inquiéter sur des coupures sur la qualité, sur le temps de service, sur la formation. Alors, même si la STM tient à avoir des formations à la hauteur, tient à, dans ses contrats, imposer des indicateurs de performance, mais ça reste que on donne un service public géré par des entreprises privées. Et donc, ça ouvre la porte à tout excès, quoi.
Toutes sortes de débordements. Puis après, la STM n'a pas toujours un gros bout. T'sais, vous l'avez dit, la STM ou autre ville, d'ailleurs, n'a pas toujours un gros bout du bâton, là, étant donné qu'ils n'ont peut-être pas d'autre choix, là, pas d'autres fournisseurs. Là.
Non, c'est ça, et c'est là où on parle, nous, on se pose de plus en plus la question, effectivement, de problématiques en termes de dégradation systémique de ce service. Parce que c'est quand même la base, c'est quand même des questions de financement aussi. C'est-à-dire que le gouvernement, en sous-finançant de manière chronique ce service public, forcément, ce financement, ça devient un facteur de dégradation des services.
Ouais.
Et on se retrouve dans des situations absurdes où, quand on parle, par exemple, avec la RTM, qui dit, comprenez-nous, on nous demande de faire des économies, donc comment on peut rendre le service avec moins d'argent, comment on peut, en gros, faire avec moins.
Ouais.
Mais c'est pas comme ça qu'on devrait prendre le sujet. On devrait dire, OK, à RTM, STM, toutes les sociétés de transport, les opérateurs, de dire, ça coûte combien pour avoir un service de qualité, sécuritaire, qui se donne partout en région, où on peut aller d'une région à une autre sans poser de questions, où chaque citoyen peut avoir une capacité sociale pleine et entière, ça coûte combien ? Et ensuite, on investit ce que ça coûte.
Ouais.
Mais on ne va pas dire on en met moins Et puis après, essayer de faire bien avec ça. Bah forcément, on va vers des baisses de qualité et à un moment donné, vers des problèmes de sécurité. On va finir par avoir des gros soucis en termes de sécurité dans les services.
Et vous l'avez dit, en fait, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit partout là, dans les services au Québec. Et je veux vous entendre aussi en terminant sur les processus de plainte, parce que il y a un problème au niveau des processus de plainte et au niveau, vous l'avez dit, de la sécurité. Et on dirait que j'entends de plus en plus de problèmes au niveau de la sécurité de gens qui se sont sentis agressés ou qui se sont sentis qui n'étaient pas en sécurité, mais que le processus de plainte ne leur rend pas justice, en fait. Ils ne souhaitent pas porter plainte parce que le processus de plainte est mal pensé, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des choses qui vont bien dans le sens où, quand ça se passe bien, les chauffeurs... bien formés de transport à tête deviennent des vrais amis. Hein.
Oui.
Il y a une vraie relation directe humaine. Hein. C'est un métier de lien humain qui se crée. Donc, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Mais effectivement, en raison de manque de chauffeurs, en raison parfois de manque de formation, en raison de manque de véhicules et puis de chauffeurs qui tournent parce que les conditions ne sont pas forcément intéressantes ou bonnes, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés alors que c'est des métiers essentiels. Et donc quand il y a des soucis, effectivement, aujourd'hui dans le processus de plainte, en fait, les opérateurs de transport se trouvent jugés partis, ou les sociétés de transport. C'est-à-dire que les plaintes, vous devez les déposer auprès de la société de transport ou de l'opérateur. Et forcément, il y a une peur de discrimination. Il y a une peur d'être ostratisé derrière,
ouais,
en disant, oui, je donne peut-être pas mon nom, mais quand je dis que ça s'est mal passé à tel endroit, à telle heure, dans tel type de véhicule, il est clair que le chauffeur, il comprend vite de qui il s'agit. La problématique est que les plaintes n'émergent pas. C'est-à-dire que moi, tous les regroupements, notamment de la RUTAC, qui sont quotidiennement en défense de droit, nous disent, il y a des plaintes, mais quand on demande à la personne, on dit on peut t'accompagner, c'est le métier vraiment de ces regroupements d'usagers, on peut vous accompagner pour déposer la plainte. Ils disent non, j'ai pas envie que ça me retombe dessus,
ouais.
J'ai pas envie que de toute façon ça changera rien. Et donc faire sortir la plainte, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est un vrai problème aussi systémique, parce qu'à partir du moment où on n'ose pas mettre de l'avant un dysfonctionnement du système, là, ça va carrément contre une perte de vivre ses droits.
Ouais.
C'est une perte complète, notamment de l'article 1 de la Charte des libertés, sur la sécurité, l'intégrité, la liberté. C'est-à-dire que la santé physique et mentale des usagers est directement impactée par le système de dépôt de plainte. Donc nous, à la RUTAC, ça fait des années qu'on revendique une gestion autonome des plaintes, donc soit par des ombudsman, soit par une structure autonome qui ne s'occupe que de manière autonome à gérer les plaintes et les transférer aux sociétés de transport ou aux opérateurs.
Vous l'avez dit, en fait, hein, c'est un problème de sécurité, en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Vierneau. Vous êtes directeur général de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec, donc la RUTAC. Et puis, on va espérer que les choses s'arrangent et qu'on ait plus d'argent dans cette enveloppe-là pour 2026. On verra ce que ça donne. Merci beaucoup de votre travail.
Tout à fait. Et puis, on a monté toute une coalition avec la CRIF, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, et puis avec la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Donc, on a monté une coalition transport adapté, une alliance, pour pouvoir justement porter une campagne et aller demander à tous les partis politiques, parce qu'il ne faut pas se tromper, la décision, elle est politique. Donc demander à tous les partis politiques que dans leur plateforme, ils adressent la question du transport adapté et que face à leurs engagements, ils prennent vraiment des mesures concrètes.
On va suivre ça de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Au revoir.
Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin.
On retrouve maintenant par téléphone Patrick Boissy, qui est professeur-chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement et à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Boissy.
Bonjour.
Vous venez nous parler d'abord de votre Centre de recherche sur le vieillissement, bien sûr, mais aussi d'un projet en particulier qui s'appelle le projet REPAS.
Oui.
Qu'est-ce que le projet REPAS et comment c'est venu comme projet?
Donc, le Centre de recherche sur le vieillissement est un centre de recherche qui regroupe une cinquantaine de chercheurs. Moi, je travaille dans le domaine, dans l'axe de recherche qui s'appelle l'autonomisation. L'autonomisation, c'est ce qui fait en sorte que les gens peuvent rester justement dans leur environnement et avoir une qualité de vie. Et je m'intéresse dans l'autonomisation à la problématique de la dénutrition. Et la dénutrition, ben, c'est un problème qui peut toucher jusqu'à 30 % à peu près. Une personne sur trois des gens de plus de 65 ans peut avoir des risques de dénutrition. Et le projet Repas, c'est un projet qui est né justement de la pandémie. Pendant la pandémie, les gens justement ont été confinés, ont eu des difficultés à se mobiliser, ont commencé à être déconditionnés, isolés chez eux. Et ça, ça a amené toutes sortes de problématiques de santé, dont oui. Le déconditionnement et la dénutrition. Et la dénutrition, c'est finalement un phénomène un peu un cycle où les gens ont des apports caloriques insuffisants. Et ces apports caloriques insuffisants amènent justement des enjeux à la fois de santé physique et des enjeux de santé mentale. Donc, les gens mangent pas assez et mangent pas nécessairement assez de protéines non plus et se ramassent dans un état qu'on appelle de dénutrition. Et le projet Repas, c'est un projet qui est né de la pandémie, mais qui est né de ce problème-là et qui vise à donner des outils pour éduquer, informer les gens sur la problématique de la dénutrition et surtout pour les aider à identifier s'ils sont à risque de dénutrition à travers un site web interactif qui leur permet justement de prendre connaissance de ce que c'est la dénutrition, mais surtout d'identifier les risques à travers un questionnaire qu'on peut leur faire passer, qui est anonyme, mais qui leur permet d'identifier des risques, des facteurs de risque pour la dénutrition et qui leur permet ensuite de les diriger vers des ressources pour agir sur ces facteurs de risque-là qui ont été identifiés dans le questionnaire.
Et j'ai deux questions qui me viennent en tête par rapport à ce que vous avez dit. La première question, c'est est-ce que c'est moi ou la dénutrition chez les personnes âgées? On en parle très peu, finalement.
Ouais, ben c'est avec le vieillissement, les gens, il y a des changements physiologiques qui apparaissent, il y a des enjeux de malabsorption, il y a toutes sortes de choses qui accompagnent le vieillissement. Et la dénutrition, c'est un peu un phénomène insidieux qui s'installe où les gens ont moins d'appétit, les gens on peuvent avoir des enjeux aussi au niveau financier. Aujourd'hui, vous savez, le coût de la vie, les gens ont de la difficulté à s'alimenter ou d'acheter des choses pour s'alimenter correctement. Donc, la combinaison un peu de facteurs physiques associés au vieillissement, de situations financières, de problèmes de santé, la maladie, la prise de médicaments, tout ça ici, ça vient affecter un peu notre appétit. Ça vient affecter aussi notre capacité à manger. Des gens peuvent avoir des problèmes à mastiquer, à avaler. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que finalement, les gens mangent moins et mangent pas assez. Ils mangent pas ce qu'il faut.
Oui, ils mangent pas assez bien, en fait.
Ils mangent pas assez bien, puis c'est ça qui fait en sorte que la dénutrition s'installe tranquillement. Puis avec la dénutrition, les gens perdent de la masse musculaire. Et cette perte de masse musculaire-là a des impacts sur leur capacité physique, sur leur mobilité, sur leur niveau d'énergie, sur toutes sortes de choses qui viennent affecter ensuite à long terme. Ça peut amener jusqu'à une hospitalisation. Les gens sont plus faibles, peuvent tomber plus facilement. Il y a toutes sortes de choses qui viennent, une spirale d'événements qui peuvent arriver lorsqu'on est dans un état de dénutrition.
Puis il y a aussi un problème au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire que de faire des repas et de faire des bons repas, ça prend quand même de l'énergie, ça prend quand même une capacité motrice. Et les personnes qui sont en état de dégradation, qui perdent ces fonctions-là, j'imagine que ça devient aussi plus difficile de cuisiner trois repas par jour, là.
Tout à fait. D'avoir accès à de la nourriture, c'est une chose. De se préparer à manger, c'en est une autre. Oui. Être capacité de manger, donc d'absorber ce qu'on fait, de mâcher et d'absorber ce qu'on fait, est un autre enjeu aussi. Donc, il y a beaucoup de problématiques associées à la dénutrition qui sont multifactorielles. Mais quand la dénutrition s'installe, on est dans un cercle vicieux. où justement ça a des impacts sur la qualité de vie des gens, sur leur santé physique, sur leur santé mentale. Et souvent, c'est exacerbé aussi. Beaucoup de personnes aînées vivent seules. Donc,
oui.
Se préparer à manger quand on est seul, c'est pas vraiment nécessairement le fun. Où les gens ont pas vraiment de motivation non plus un peu là-dessus. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent vous amener vers la dénutrition. Et puis, le site repas, c'est un peu comme une façon d'éduquer les gens sur ça, mais aussi de leur faire prendre conscience s'ils sont dans une situation où ils ont des facteurs de risque pour cette dénutrition.
Oui, j'emmenais, vous l'avez dit, à des services qui pourraient les aider. J'ai aussi une question par rapport, vous avez dit que au niveau de la santé mentale, la dénutrition avait des impacts sur la santé mentale. Pouvez-vous en parler un peu plus? C'est peut-être quelque chose auquel on pense moins, finalement.
Bien, vous savez, la nutrition, c'est super important. C'est ce qui vous donne un peu les calories que vous mangez. C'est ce qui vous donne l'énergie nécessaire pour réaliser des activités de la vie quotidienne. Quand on est en situation de dénutrition, on a un apport calorique insuffisant pour nos besoins physiologiques. Donc, vous comprendrez qu'on est comme dans un état un peu de survie. Quand on est dans un état de survie, on n'a pas nécessairement le goût de faire grand-chose autre que de rester immobile. Puis là,
oui.
On n'a pas le goût de faire des activités, mais l'absence de d'énergie, si vous voulez, impacte notre capacité à faire des activités et notre motivation à faire des activités. Et ça vient créer un peu une situation d'isolement social. Et cet isolement social-là amène des enjeux au niveau de la santé mentale en termes de dépression, d'anxiété, de toutes sortes de choses qui peuvent apparaître, pas causées directement par la dénutrition, mais la dénutrition amène un état qui est délétère pour la santé mentale.
C'est une roue qui tourne, finalement. Et là, ce que j'ai compris, en fait, c'est que la phase d'essai du projet avait été complétée, que maintenant, il y a d'autres villes qui sont d'autres organismes qui sont intéressés par des projets semblables.
Oui, ben on est présentement le projet et le site web qui est disponible à tout le monde et qui est gratuit vous permet de vous informer, vous permet de remplir le questionnaire et d'avoir un rapport qui génère une évaluation de vos facteurs de risque et puis qui vous éduque sur ces facteurs de risque-là. La fonction d'orienter qui est du référencement sur les ressources, elle est présentement disponible que pour le secteur de Sherbrooke parce que c'est un recensement de l'ensemble des ressources, que ce soit de l'accompagnement pour le transport, pour aller à l'épicerie, de l'aide pour la préparation au repas, de l'aide pour les emplettes, l'aide pour s'alimenter, des ateliers de cuisine. En tout cas, toutes les ressources qui ont été recensées pour le secteur de Sherbrooke. Prochainement, donc quand vous remplissez le questionnaire, ça vous donne des références sur des ressources en ce moment pour Sherbrooke. Si vous êtes à l'extérieur de Sherbrooke, ben ça, cette fonction-là ne marchera pas. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on est en discussion avec des organismes comme le 211 qui, justement, recense un ensemble de ressources à travers différentes régions au Québec. Et ce qu'on espère être capable de faire dans la prochaine année, en partenariat avec eux et avec d'autres sources de financement, ce serait d'élargir le site web Repas pour être capable de référencer des ressources dans d'autres régions, donc de rendre le site web plus complet pour des gens à l'extérieur de la région de Sherbrooke.
Oui, ce serait une bien bonne chose, évidemment, là, pour les gens qui en auraient besoin, parce que vous l'avez dit, les besoins sont là, finalement.
Tout à fait. Puis on a eu une très bonne réponse de la part des gens. Il y a eu beaucoup d'intérêt de d'autres régions. Jusque-là, ben c'est un projet de recherche qui a été financé par le Fonds de recherche du Québec. Le financement s'est terminé, donc on est à la recherche de financement pour pouvoir faire ces travaux-là et de rendre ça disponible à l'ensemble du Québec, on l'espère, dans la prochaine année.
Et quels sont les autres projets pour le Centre de recherche sur le vieillissement?
Je dirige un projet qui s'appelle Promo Santé, qui s'inscrit dans les mêmes horizons un peu que Repas et qui s'intéresse à la problématique du déconditionnement. Donc, le déconditionnement qui est une absence, si vous voulez, d'activité, autant physique que de participation sociale, qui amène un état de déconditionnement. On a un projet de recherche qui est financé par le Fonds de recherche du Québec pour les trois prochaines années où on a fait une première implantation d'un programme d'intervention en télésanté. C'est un programme qui offre un programme d'intervention en activité physique, en ergothérapie et un peu en santé mentale à des aînés qui sont à risque de déconditionnement et qui vivent dans la communauté et qui sont isolés. Et ce programme-là, c'est un programme qui utilise les technologies de l'information où les gens se rencontrent de façon virtuelle et sont reçoivent ou font des activités dirigées par un kinésiologue et par un ergothérapeute sur un programme d'intervention qui leur permet justement de rehausser leur capacité physique pour avoir plus d'énergie pour faire des activités et travailler à découvrir quel genre d'activités ils peuvent faire pour avoir rehausser leur participation sociale et avoir des activités signifiantes. Et ce programme-là, ben on est en train de l'implanter présentement dans trois régions au Québec. C'est le CIUS de l'Estrichu, le CIUS MCQ et un regroupement de résidences pour aînés privées. Et on espère justement dans les prochaines années et demie ou quoi, commencer à instaurer ces interventions-là en télésanté pour rejoindre des gens qui sont justement qui n'ont pas accès à des services et qui peuvent bénéficier de cette, ce programme de prévention et de promotion de la santé.
C'est effectivement un autre sujet là, dont on pourrait parler longtemps, mais c'est un autre enjeu chez les personnes âgées qui malheureusement manquent de services. Ils sont souvent assez isolés. Hein, on le dit souvent, là, le problème... un des problèmes des personnes âgées, c'est leur niveau d'isolement. Si on veut vous aider par rapport au projet Repas ou par rapport à d'autres projets, si on veut en apprendre plus, où est-ce qu'on peut aller?
Bien, le site est www.repas.info, donc repas.info. Je vous invite, j'invite vos auditoires, si vous connaissez des personnes aînées, parce que le questionnaire, il peut être rempli pour quelqu'un aussi en même temps. Donc, si vous êtes un proche aidant ou vous avez une personne aînée dans votre environnement, puis que vous êtes curieux un peu d'en savoir plus, ce serait le fun de peut-être de les inviter à le faire avec vous, puis d'aller sur le site et de passer à travers le site, donc de faire le volet, la capsule d'information, le questionnaire et, si nécessaire, l'orientation avec vers les ressources. Puis si vous avez des commentaires à nous faire sur le site, vous avez des possibilités de nous écrire vos commentaires sur votre expérience. Parlez-en. C'est un site qui est pour des ressources à la fois dans le système de santé, au niveau des groupes communautaires, mais c'est aussi une ressource pour les individus, pour les personnes. Donc, si vous êtes des personnes aînées ou vous connaissez des personnes aînées puis qui pourraient être intéressées ou qui auraient peut-être des risques de dénutrition, ben ça commence par s'informer puis d'être capable d'identifier ces risques-là. Fait que le site web est une bonne première étape, puis on vous invite à y aller.
Merci beaucoup de votre travail. Hein. C'est quelque chose qui est fastidieux à mettre en place, mais qui est nécessaire. Et puis, on invite effectivement les personnes à l'écoute qui se sentent interpellées à aller sur le site web là, pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Re-bienvenue à Sans détour. On termine l'émission avec la revue de presse. Et on commence en France où il y a un malus, donc une taxe pour le poids et le CO2, donc le dioxyde de carbone, qui depuis le 1er janvier 2026 va être appliqué au transport adapté lorsque celui-ci sera revendu. Et là, je vous explique, c'est que quand une personne fait adapter un véhicule, donc ajoute de l'équipement dans un véhicule pour lui permettre de conduire malgré une incapacité, et la taxe sur le poids et le CO2, donc qu'on appelle le malus en France, n'est pas appliquée sur l'achat du véhicule, parce que évidemment les personnes en situation de handicap n'ont pas nécessairement le choix d'acheter un véhicule qui est plus lourd et qui pollue plus, étant donné qu'on parle de camions, de vannes dans la plupart des cas, pour être capable d'avoir l'équipement requis, de prendre un fauteuil roulant, par exemple, à l'intérieur. Donc, les petites voitures ne peuvent pas répondre à ces besoins-là. Donc, une personne qui achète un véhicule pour le faire adapter, donc qui est en situation d'handicap, qui a besoin de faire adapter un véhicule, ne paie pas cette taxe-là. Par contre, depuis le 1er janvier 2026, les véhicules adaptés, lorsqu'ils sont revendus par une personne en situation de handicap, mais qui n'ont plus à l'intérieur, donc qu'on démantèle la partie adaptée du véhicule, et donc la personne veut revendre, par exemple, sa vanne pour pouvoir en acheter une autre à un autre usager qui, lui, n'est pas en situation de handicap, donc qui n'a pas besoin de l'adaptation sur le véhicule, et la taxe va être chargée à l'autre personne. Ce que ça crée, en fait, selon plusieurs organismes communautaires en France, c'est que les voitures deviennent plus difficiles à revendre pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin de revendre cette voiture-là pour se payer une nouvelle voiture adaptée. Parfois, c'est parce que la voiture donc devient trop vieille et donc ne répond plus aux besoins de la personne ou aux normes, parce qu'il y a des normes à suivre. On peut adapter n'importe quel véhicule. Parfois, c'est parce qu'évidemment, la personne veut changer de véhicule, a besoin de changer de véhicule, ou ses besoins au niveau des adaptations changent. Parfois, la personne veut simplement changer de véhicule, comme n'importe qui voudrait changer de véhicule après quelques années, ce qui est évidemment un droit. Par contre, quand on revend le véhicule à une personne qui n'est pas en situation de handicap, qui n'a pas besoin d'accommodement, à ce moment-là, la taxe poids et CO2, donc la taxe malus, va s'appliquer. Ce que ça fait, en fait, là, c'est que ça crée un problème au niveau des personnes en situation de handicap qui ont de la difficulté à revendre ces voitures-là, qui auront de la difficulté à revendre ces voitures-là selon les organismes communautaires. Et ça crée une injustice parce que ces personnes-là vont devoir donc négocier à la baisse le coût des véhicules pour être capable de les vendre, parce que les personnes qui achètent un véhicule vont devoir payer plus cher pour les taxes, donc vont négocier à la baisse le prix du véhicule. Ce que ça fait, ça maintient encore une fois les personnes en situation de handicap dans un état plus précaire, parce que ils n'ont pas nécessairement le bon prix pour le véhicule qu'ils revendent, étant donné cette taxe-là. Donc, les organismes communautaires demandent de revoir cette nouvelle politique-là qui a été mise en place donc le 1er janvier 2026 pour mieux réfléchir aux conditions que ça va créer pour les personnes en situation de handicap, et demandent éventuellement qu'on enlève cette nouvelle politique-là, comme c'était le cas avant. Donc, le malus n'était pas chargé sur les véhicules à la revente, parce que ça crée une situation d'injustice pour les personnes en situation de handicap en France. Donc, ce sera à suivre, à savoir s'ils auront assez de poids là pour faire continuer, pour faire avancer, je devrais dire, ce dossier. Par la suite, donc, on parle d'une association qui saisit en justice des écoles pour l'embauche de AESH, donc d'accompagnants pour les personnes en situation de handicap. C'est une première, en fait. C'est la première fois qu'on saisit en justice des écoles pour les obliger à engager des accompagnants pour les personnes en situation de handicap, les élèves en situation de handicap dans dans ce contexte-là, on le sait, on en a parlé, puis je vais en reparler tout à l'heure, vraiment un problème au niveau d'embauche de ces personnes-là, parce que les conditions sont pas bonnes. Parce qu'on coupe les heures beaucoup, on coupe les services à ces personnes-là, et donc on a beaucoup de difficultés à engager ces personnes-là, même lorsque des postes sont ouverts, il y a peu de gens qui y appliquent parce que ce ne sont pas des métiers qui sont valorisés. De plus, pour ouvrir des postes, ben, ça prend de l'argent pour payer ces gens-là, et évidemment, il y a pas assez d'argent qui est investi, l'argent qui avait été investi est de plus en plus coupé, toujours en France. Donc, on a de moins en moins de postes disponibles malgré les besoins des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap, donc qui se retrouvent sans accompagnement à l'école et qui finissent finalement par être déscolarisés, donc ne plus pouvoir aller à l'école parce qu'ils n'ont pas d'accompagnatrice ou d'accompagnateur avec eux. Étant donné qu'on n'a pas l'argent qu'il faut pour que ces personnes-là soient embauchées. Et donc, pour la première fois en France, il y a une association de parents d'élèves handicapés qui va attaquer 10 académies en France pour les obliger à engager des personnes accompagnatrices pour leurs enfants. C'est la première fois qu'on va en justice, qu'un collectif va en justice pour obliger des académies, donc des écoles, à engager des personnes accompagnatrices, parce que c'est un droit pour les élèves, évidemment, d'avoir d'être à l'école, et que si on n'a pas ces accompagnateurs-là, bien, je l'ai dit, les enfants sont déscolarisés, ce qui ne devrait pas, évidemment, se produire, étant donné que l'école est un droit. Dans le même ordre d'idées, il y a une demande qui a été faite, donc, pour avoir un statut de fonctionnaire pour les AESH, donc pour les accompagnateurs, accompagnatrices pour personnes en situation de handicap, pour les élèves en situation de handicap, donc que ces personnes-là soient reconnues comme fonctionnaires de l'État, ce qui leur donnerait un meilleur salaire, ce qui leur donnerait de meilleures conditions de travail. Mais le Sénat a refusé ceci parce que, bon, ça coûterait trop cher. Aussi parce que ça amène, par exemple, des obligations comme un travail à temps plein, ce qui n'est pas toujours compatible avec les personnes accompagnatrices qui, parfois, ne travaillent pas à temps plein. Donc, on dit au niveau du Sénat que ce n'est pas réaliste et que ça vient avec des obligations qu'on ne pourrait pas respecter dans le cadre d'un emploi comme accompagnateur, accompagnatrice, dont, je le disais, donc dont le fait d'avoir un emploi à temps plein obligatoire. Donc, à voir pour la suite, mais pour l'instant, ça a été refusé là, par le Sénat en France, donc on n'aura pas de nouvelles à court terme sur ce dossier. On s'en va maintenant aux États-Unis, où on parle de déficience intellectuelle, de peine de mort, parce que il y a vraiment, dans un arrêt marquant, donc en 2002, la Cour suprême des États-Unis avait conclu que le 8e amendement de la Constitution, qui prohibe tout sentiment cruel et inhabituel, interdit l'exécution de condamnés en situation de déficience intellectuelle. Cependant, on se regroupe donc aux États-Unis parce que il faut savoir pour 9 juges de la Cour suprême à quel moment on considère qu'une personne est en situation de handicap intellectuel et donc elle ne peut pas être condamnée à peine de mort parce qu'elle n'est pas entre guillemets responsable ou totalement responsable de ses actes étant donné sa déficience intellectuelle. Donc on parle évidemment de tests de quotient intellectuel, mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est le seul test? Est-ce que le seul test devrait être suffisant? Est-ce qu'on doit inclure des aspects sociaux à ça? Est-ce qu'on met un point particulier, donc, à un certain chiffre. Ces personnes-là ne peuvent plus avoir accès, ne peuvent plus être condamnées à peine de mort. Et si oui, quel est ce chiffre-là? Est-ce qu'on se fie seulement à ce chiffre-là? Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut réfléchir au niveau des États-Unis. Et puis, effectivement, Par exemple, un cas en Alabama où un monsieur a été condamné sur la base d'un score de 72 de quotient intellectuel qu'on jugeait comme étant suffisant pour que la personne soit reconnue responsable et donc jugée pour la peine de mort. Et donc, ça crée des questionnements parce que 72, ce n'est pas très haut. Et il faut savoir, bon, est-ce qu'une personne à 71 aurait été emprisonnée à vie plutôt que condamnée à mort? Où est-ce qu'on met où est-ce qu'on met le point tout ça et sous quelles conditions? C'est tout un débat hein, pour les personnes avec des déficiences intellectuelles, pour leurs droits fondamentaux, évidemment, et aussi pour une question de respect de ces droits-là pour les personnes qui ont des problèmes de déficience intellectuelle. Et on sait malheureusement qu'ils sont particulièrement présents dans les prisons. Ils sont surjudiciarisés, ces personnes-là. Donc, c'est vraiment une question à se poser, malheureusement, là, pour aux États-Unis. Donc, la Cour suprême s'en est saisie et on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. C'est vraiment un enjeu qui est central hein, pour le respect des droits des personnes avec des déficiences intellectuelles et qui n'est pas simple hein, parce que c'est aussi des personnes, évidemment, qui ont commis des crimes importants. Donc, il faut aussi respecter les victimes dans tout ça. Donc, il faut trouver, faire la juste part des choses pour que tout le monde y trouve son compte. Et ce n'est pas chose facile, ce n'est pas noir ou blanc. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines aux États-Unis. C'est un débat qui évidemment, polarise à la fois la gauche et la droite. Il y a donc les deux partis, les démocrates et les républicains, sur la question. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine!